RMC Running, Mathéo Rollet.
Salut à tous, bienvenue sur RMC Running, le podcast destiné à tous les passionnés de la course à pied. Épisode spécial aujourd'hui, nous sommes dans la halle Tony Garnier, en plein cœur de Lyon, pour cette mythique Saint-Élion, 71e édition tout de même. Elle, justement, a participé à quasiment toutes les éditions.
Quand même pas.
Alors, quoi de mieux que d'avoir comme consultante l'expérimentée, la reine de cette Saint-Élion, Sylvaine Cuisseau, mesdames et messieurs. Comment ça va, Sissi ?
Salut, ça va très bien, merci. Moi, cette année, tu sais, j'étais pas en course. J'étais en tant que spectatrice sur le terrain, oui, mais... C'était moins fatigant quand même.
Mais
j'ai fait une nuit blanche quand même.
Attention, Sylvaine qui sera quand même notre maître yodu du jour, notre experte course à pied, elle qui connaît maintenant le trail comme sa poche finalement. Donc désormais, c'est maître Sissi aux commandes.
Ah ouais, je suis fière.
Alors plateau exceptionnel pour cette délocalisation. Dans un instant, on va accueillir Sylvain Cachard et Adeline Martin, les grands vainqueurs hommes et femmes de cette Saint-Élion 2025. On va également parler révélation avec Virgile Morizet et Diane Racineux, tous les deux sur le podium de cette Saint-Élion 2025, à seulement 24 ans s'il vous plaît. Et puis... On prendra le temps quand même d'échanger avec Nicolas Calvez, une belle histoire marquée par la vie, amputée de la jambe gauche en 2024, qui réalise l'exploit de courir et de terminer des trails malgré sa prothèse. Cette nuit, pour lui, c'était le format 24 km. Bref, sortez vos frontales, c'est parti pour le débrief de cette Saint-Élion 2025. Bon, je me retourne vers toi directement, Sylvain, grand vainqueur de cette Saint-Élion édition 2025. J'ai juste envie de te poser une question simple pour commencer. Qu'est-ce que ça fait de gagner ici à Lyon, tout proche de chez toi, hein, t'es grenoblois de base.
Ouais, merci pour les questions simples. C'est vrai qu'on a nuit blanche, c'est compliqué. Non, beaucoup de plaisir, hein, c'est vrai, de la surprise aussi. C'était mon premier 80 km. Moi, je venais vraiment pour prendre de l'expérience sur cette distance, finir la saison sur une touche folklorique, une distance un peu un projet, hein, avec l'après-mondial, on va dire, jusqu'à cette Saint-Élion. Que je connais moins, pouvoir me découvrir et donc pouvoir concrétiser tout ça et avec en plus la victoire, pour moi c'était, je vais pas dire inespéré parce qu'au fond je suis compétiteur et je l'espérais, je pense toujours un petit peu au fond de moi, mais ouais, c'est un sacré bonheur, hein. C'est du bonheur à l'état brut.
Bon, ceux qui nous regardent sur YouTube le savent et le voient, mais pour ceux qui nous écoutent, il faut dire que Sylvain est un peu emmitouflé dans son bonnet.
Les après-courses, je pense Sissi et Adeline pourront témoigner. C'est un peu un état grippal, c'est des chauds, des froids, donc il y a des moments où je suis en t-shirt, des moments où je suis en doudoune. Puis bon, il faut avouer aussi que la douche a été sommaire, qu'on a couru 6 heures, donc je me dis que pour votre odorat, je vais rester en doudoune.
L'un dans l'autre, il faut être à l'aise. Adeline, je me tourne aussi vers toi. Gagner cette Saint-Élion, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire pour toi aussi. Quelle émotion on ressent sur cette ligne d'arrivée de cette course mythique ?
Oui, j'avais fait deuxième l'année dernière, j'avais... à cœur de la gagner, de pouvoir inscrire mon nom au palmarès de cette doyenne et de cette course mythique. En tant que ligérienne, c'est vraiment une course aussi qu'on me parle depuis des années et voilà, je suis ravie d'avoir pu le faire. Tu m'as demandé quelque chose d'autre, mais j'ai perdu, ça y est.
C'est la fatigue de la course. On peut comprendre. Bah oui, justement, Sylvaine, toi qui as participé à Moult Saint-Élion, comment est-ce qu'on gère cette fatigue et notamment l'après-course finalement? Parce qu'on apparaît complètement cuit finalement.
Ouais, je pense que l'après-course, on savoure quand même. On relâche un peu et forcément, moi je dis, on n'est plus trop étanche, quoi. C'est-à-dire qu'on nous parle et on est un peu dans un autre monde. Mais c'est normal, une nuit blanche, même en temps normal, sans avoir couru, c'est compliqué. Et je pense que le fait d'avoir couru, ça fait qu'ils sont peut-être encore un peu plus lucides, parce que t'es encore un peu dans l'adrénaline, on en parlait tout à l'heure. Je sais même pas s'ils arriveraient à dormir, si là ils allaient dormir, mais je pense qu'il y a un côté aussi, t'as envie de savourer, il y a plein de monde encore à la halle, il y a les podiums, il y a cette ambiance, il y a encore plein d'arrivées jusqu'à 16h. Donc profitez, vous dormirez ce soir.
Adeline, parle-nous un petit peu de cette ligne d'arrivée. Elle est un peu spécifique parce qu'on passe quand même 6-7 heures dans le noir complet sans un chat. Et d'un seul coup, paf, on se prend la lumière de la halle Tony Garnier, un peu le bruit, le public. Est-ce qu'on arrive à réaliser à ce moment-là qu'on est bien arrivé et que ça y est, on est au chaud?
Oui. Pour l'avoir fait l'année dernière, je connaissais du coup un peu le parcours et l'arrivée notamment. Et là, je m'étais dit quand même, il faut que je passe la course, elle est finie quand je passe l'arche, quoi. Donc je vais jusqu'au bout et voilà quoi. Bon, mon fils m'a demandé, je lui ai dit quoi, tu veux d'une célébration, on fait quoi en célébration? J'ai pas eu le temps de tout faire, c'était pas assez long la ligne d'arrivée. Je devais faire l'avion, je devais faire l'hélicoptère. Bon bah voilà,
j'aurais payé cher pour voir ça, mais j'étais au tranquille au chaud à la Croix-Rouge. Hein.
Il y a pas eu de roulade avant, on a pas vu
ouais,
ça.
Et en termes d'émotion, tu parlais d'émotion, c'est vrai que moi, j'ai pas versé mes petites larmes. Contrairement à Sylvain, c'est ce que je disais, je pense que c'est une course où vraiment je venais pour gagner et je voulais à tout prix. Voilà.
Et quand tu t'y attends,
c'est encore différent, tu vois, mais ça n'empêche pas que ça fait quand même quelque chose parce que voilà, t'as fait ce que tu voulais, tu l'accroches, cette course mythique à ton CV et ça fait plaisir. Mais c'est vrai, quand tu t'y attends encore pas du tout ou moins, et ben t'as vraiment ce lot d'émotions qui monte. Voilà, mais là je suis en train de réaliser quand même et ça fait vraiment plaisir, quoi.
Sylvain, toi, on a aussi vu de l'émotion à l'arrivée. Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que la physionomie de course t'a fait croire à un moment que c'était vraiment possible? Ça y est, là, je suis en marche de réaliser quand même un sacré exploit. Comment est-ce que t'as ressenti le truc?
Ouais, c'est vrai que sur les émotions, moi, je suis quand même un coureur très émotif. Et puis, je me le cache pas. En fait, je cours pour ressentir ce genre de choses. Je pense qu'on s'entraîne tous les jours pour ressentir des émotions, et c'est tellement bon quand on peut lâcher les vannes. J'étais tout seul dans ma... J'avais des petits messages audio préenregistrés de mes copains qui pouvaient pas être là, et du coup, genre, quand je les écoutais, je lâchais une larme ou deux dans les Monts du Lyonnais, tout seul dans la nuit, là. Donc non, moi, c'est quelque chose que j'adore, vraiment, ressentir ça, lié à la fatigue, forcément. En fait, on a... tout est décuplé, hein, comme disait Sissi. Et la physionomie de course, elle était quand même très tendue. J'ai cru comprendre sur la fin, j'étais pas bien lucide, mais qu'il y avait quand même Virgile qui était en très très bonne canne.
Virgile qui fait deuxième,
connaître,
hein.
Ouais, pour le connaître depuis le 90 du Mont Blanc, honnêtement, c'est un coureur, un très gros finisseur. D'ailleurs, c'est le seul du groupe de tête initial qui finit bien. Et il fait une course de fou. Honnêtement, quand on me dit que c'est lui qui passe deuxième, ça me fait un peu chier. Je me dis, il va pas falloir s'endormir. Donc, plus quelques péripéties un peu de fin de course où j'avais vraiment. J'avais vraiment du mal à retrouver les ressources.
Disons que j'ai hâte de voir la ligne d'arrivée quand même.
Ouais, et puis c'est que quand je l'ai vu que je me suis dit, ok, j'ai gagné, quoi. Pas 200 mètres avant.
Sachant que, bon, ceux qui sont pas là le savent pas forcément, mais la ligne d'arrivée, il y a quoi? Il y a 25 mètres
ouais,
avant de...
Ouais, 100 mètres, allez. Ouais, 100 mètres, maximum de la 100 mètres. Je pensais que j'avais gagné.
Ok. Et Sylvain, toi aussi, je me tourne vers toi par rapport aux allures. Parce que finalement, toi, tu connais cette Saint-Élion par cœur. J'ai l'impression que d'année en année, ça court de plus en plus vite. Notamment très loin de la ligne d'arrivée, ça attaque fort. Les hommes et les femmes se mettent banderie sur banderie. Est-ce que toi, tu as vu une évolution par rapport à tes premières Saint-Élion?
Ouais, ça part très très vite. Hein. On l'a vu cette année encore. En fait, ça part vite et ça finit vite. Et ça s'arrête jamais, quoi. Donc nous, on les voit passer au ravito, à Soucieux, quand ils traversent le gymnase. Ils attrapent les flasques à la volée. Je t'ai vu.
T'as vu ma stratégie ou pas?
Plastique, je sais pas quoi.
Mais... Non, en gros, moi j'ai une stratégie où je mets tout dans un sachet congèle et je le chope à la volée et ensuite en courant, je range mes flasques, je range mon sachet plastique et il me sert de sac poubelle pour le ravitaillement d'après. Et okay. Ça, c'est Tom Carnage qui m'avait filé la petite astuce et au mondial. Depuis le mondial, je fais ça. Et sur les courses courtes, enfin entre guillemets, même ici, quoi, c'est redoutable, je trouve. Tu ralentis pas.
Ouais, mais c'est ça. Et si bien que la moindre pause pipi caca, tu dis, c'est fatal, quoi. Je sais pas si vous avez dû vous arrêter une ou deux fois, mais...
Pas cette année, j'ai
non,
eu
non
la
plus.
Chance.
Mais j'ai vu quelques pleines lunes.
Moi, j'ai des amis coureurs, je vais pas les citer parce que c'est pas très valorisant, mais qui se font pipi dessus parce que tu veux pas perdre
le temps.
De temps, quoi.
Il y a plus le temps.
Ben ouais, non, mais c'est ça. Donc, ouais, après, c'est compliqué de comparer parce que quand t'as du verglas, quand t'as de la neige, t'es parfois obligé de ralentir. J'ai connu des éditions où t'étais obligé de t'accrocher un peu pour pas glisser, pour pas tomber. Donc je pense que c'est compliqué de comparer les éditions, mais dans tous les cas, c'est une course qui part vite, qui finit vite, et t'as pas le droit de ralentir, quoi.
Justement, je m'adresse à vous deux, les amis, parce que cette année, les conditions étaient quand même particulièrement bonnes, hein. Il faut le dire, 7-8 degrés, il n'y avait pas de pluie, un peu de gadou, mais voilà, sans plus...
Un peu beaucoup, quand
ouais,
même, hein.
Il y avait de la gadoue,
on a fait un cross, on a fait un vrai cross. Hein.
Mais par rapport à des éditions, je veux dire, Sylvain en parlait, où il y a du verglas, etc., c'était quand même une édition pour courir vite, on est d'accord?
Ah oui, la Saint-Élion, en plus, ça court tout le long. Enfin, j'avais posé la question de savoir où il avait marché. Il a marché au même endroit que moi. On a fait 4 escaliers en marchant. Et le reste, tu cours tout le long, quoi. Donc, ouais, t'as pas de temps à perdre, ouais.
Toi, Sylvain, t'as particulièrement apprécié ces conditions-là ?
Ouais, je pense que j'aime un peu tout. Alors non, le très chaud, j'aime pas, mais là, ça risquait pas. ou alors, faut vraiment que je fasse un gros processus d'acclimatation. Mais sinon, j'aime un peu toutes les conditions. J'aime, en fait, j'aime le trail, j'aime la course en montagne, parce que c'est des sports outdoor, il faut tout le temps s'adapter. Et c'est ça aussi qui rompt la monotonie de l'entraînement, c'est que quand on s'entraîne pour une course, bah, on prend en compte l'altitude, la chaleur, la distance, le dénivelé, mais aussi quelles conditions potentielles il peut y avoir, quoi. Donc, moi, j'avais couru sous la pluie, bien sûr, j'avais couru de nuit, parce que ça, on était quand même à peu près sûr qu'il allait faire nuit. mais par contre, sous la pluie, dans des conditions plutôt bonnes. Donc, non, moi, j'ai aimé, mais d'autres conditions ne m'auraient pas déplu non plus, je pense.
Et tu parles d'adaptation, justement, toi, Sylvain, tu t'alignes quand même souvent sur des courses à plus faible kilométrage, on va dire, peut-être un peu plus de dénivelé. Est-ce que là, le 80 km, c'est quelque chose que tu apprécies? Bah, forcément, quand on gagne, on apprécie peut-être un peu plus.
Ouais, après, là, je pense qu'avant de répondre, il faut que je fasse un bon repas, une bonne nuit, et, parce que là, la réponse risque de fuser. Non, j'ai apprécié vraiment le challenge, et c'est une direction vers laquelle je veux aller. Faire le 80 km de la Saint-Élion, c'était pas non plus un hasard, dans le sens où en temps de course, c'est peu éloigné à ce que j'ai pu pratiquer sur un mondial, par exemple, qui pour moi est une course quasiment aboutie, qui avait duré 4h58. Donc je savais qu'on allait se rapprocher en durée, donc sur ce qui est physionomie, voilà, on va dire physionomique, métabolique et psychologique, j'étais prêt. Par contre, il y avait la question du mécanique, en fait, du musculaire, parce que par contre, ça reste 80 km. Et 80 km, bah, c'est pas anodin en fait.
80 km qui se courent en plus assez vite, donc musculairement ça fait mal.
J'ai jamais eu autant de courbatures de ma vie, clairement.
C'est vrai que c'était un peu compliqué de monter sur le tabouret tout à l'heure.
J'ai eu un peu de mal.
Sylvain, justement, la Saint-Élion est assez spécifique là-dessus. C'est un format assez spécial parce que c'est 80 km, mais on court entre guillemets que 6-7 heures. Enfin, sur des trails un peu plus, où il y a un peu plus de dénivelé, c'est bien plus long que de faire 80 km, non ?
Ouais, mais c'est ça qui est difficile en fait. Parce que, comme on me disait, t'as pas de répit. Et quand tu marches sur des trails avec plus de dénivelé, tu te reposes un peu, mine de rien. Tu changes le groupe musculaire. C'est différent, mais c'est pas plus facile parce que tu cours moins longtemps, quoi. Parce que tu cours moins longtemps, mais tu cours plus vite. Donc, c'est juste pas la même course, en fait. C'est comme comparer un marathon avec ce type de course. Ça n'a rien à voir, en fait. Ou même à 100 km. On a l'exemple de Benjamin qui venait du 100 km. Je sais pas exactement ce qui s'est passé et pourquoi il a abandonné.
Il a eu des espèces biomécaniques, c'est ça. Hein. En gros, il a eu des blocages au niveau de la hanche, il n'arrivait plus à dérouler, il a dû abandonner au chaponneau.
Ok. Et bah, lui, c'est vrai qu'il est habitué aux efforts réguliers, toujours les mêmes groupes musculaires. Donc, c'est juste différent, en fait.
Adeline, toi, c'est un format que tu apprécies particulièrement. On l'a dit, deuxième l'an passé. Cette année, tu gagnes. Ça te réussit plutôt bien, la Saint-Élion, en général.
C'est vrai que c'est des formats 80-90. C'est le max que je fais et que je ferai globalement. Alors attention, je ne dirai jamais, ne jamais dire jamais comme je dis, mais voilà, je pense que globalement, c'est surtout ça que j'aime. Après, j'aime bien je peux être assez polyvalente, j'adore la montagne, j'adore les profils de montagne, après c'est juste que chez moi, j'ai pas la montagne pour travailler du très très haut dénivelé, mais j'aime aussi vraiment courir, je viens de la course à pied, de l'athlétisme, et du coup, ce que j'aime, c'est courir, quoi. Donc oui, 80 roulants, type templier, ou ici, j'adore.
On n'a pas vraiment parlé de ta course, toi, Adeline, parce que finalement, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, tu étais un peu annoncée comme grande favorite, on va pas se mentir. Est-ce que ça, c'est un statut un peu difficile à assumer avant de partir ou toi, ça va, t'es
plutôt à l'aise
avec ça ?
Forcément, ça va te mettre un peu de pression supplémentaire parce que tu sais que tu as attendu, parce que bah, t'as, voilà, t'as l'étiquette. Donc oui, aujourd'hui, j'ai vraiment entendu partout, mais je l'avais annoncé aussi que je voulais gagner. Donc forcément, on me disait c'est ton année, c'est pour toi, etc. Mais encore une fois, t'as ce qu'il y a sur le papier et après, il faut le faire sur le terrain, quoi. Et moi, je préfère faire sur le terrain, quoi.
Mais justement, donc, sur le terrain, quand est-ce que t'as un peu, comme je disais à Sylvain tout à l'heure, un peu compris que c'était
non,
joué?
Non, moi, il fallait que je passe l'arche. Parce que tu descends les escaliers t'arrives même, t'arrives même plus à vraiment plier les jambes. Alors, tu peux t'en prendre une dans les escaliers et c'est fini, quoi. Enfin, tu vois, tu peux vraiment te faire mal. Oui. Donc non, moi, c'était je passe l'arche et là, je pourrais dire que j'ai gagné, quoi.
Parce que si, justement, sur cette course... on comprend qu'on est à Lyon que quand on est dans Lyon, parce que vraiment un kilomètre avant on est encore dans la forêt. C'est assez impressionnant, on prend la lumière un peu tout d'un coup, la lumière de la ville qui arrive un peu tout d'un coup, non ?
Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'ils connaissaient le parcours quand tu arrives à l'aqueduc, là tu sais que c'est pas bien loin. Je pense qu'ils connaissent quand même, c'est pas en voyant la lumière, mais c'est sûr, tant que t'as pas franchi la ligne, tu sais pas. Je sais pas s'ils connaissaient les écarts. Adeline, c'était assez confortable. Après, Sylvain, il y a eu des rebondissements.
Après moi, Nico était responsable écart. Hein. J'ai eu.
Ouais.
Je pense que Pogacar, il a moins d'écart que moi.
Hein. Nous, on a vibré.
Pourtant,
vraiment,
il a des oreillettes.
Moi, j'avais pas les oreillettes.
Ah, tu cours avec des oreillettes, Sylvain? Non. Non, parce que oui, toi, il y avait l'arrivée, quoi, 3 minutes avec, avec Virgile.
Ouais, on m'annonce 4,45 à un moment donné, et puis il y a 3,03. Tu vois, il me reprend une 40 à la fin.
3,03, sur une distance comme ça, on se dit petit coup de flip ou ça va? On est encore large?
Ah, encore une fois, hein, vu mon état, fallait avant tout aller arriver sur la ligne d'arrivée. Hein. C'est bien beau d'avoir 3 minutes d'avance, mais il faut les avoir à la fin.
Hein. Sylvain, toi, est-ce que tu as l'habitude quand même sur ces Saint-Élion d'avoir des rebondissements assez extraordinaires, de quelqu'un qui peut être finalement assez solidement en tête et d'un seul coup tout dégringole?
Ah ouais, il y a plein de rebondissements. On a vu plein d'arrivées au coude à coude, on a vu plein de sprints. Moi, j'ai fait 25 km avec Julia Benedicto en 2016. Coup à coude pendant 25 bornes et ça se joue à 30 secondes à l'arrivée, elle gagne, je fais deuxième, mais ouais, et c'est ça qu'on aime en fait. C'est quand il y a du sport, du jeu, c'est pas la guerre malsaine, c'est la guerre qui est très saine et c'est ce qu'on aime faire. Donc, mais je trouve ça très courageux, Adeline, quand elle a annoncé qu'elle voulait gagner, parce qu'il y a très peu finalement d'athlètes qui osent le dire au départ. Et je trouve ça hyper courageux, franchement.
Gentil, merci.
D'oser le
ouais,
dire,
après, voilà, j'ai pas à cacher. C'est vrai que. Ouais, je voulais le dire. C'est vrai que l'année dernière, je fais deuxième. Qu'est-ce que je peux rêver de mieux, quoi? Bah, forcément, la première place. Et vraiment accrocher cette mythique et la mettre. C'est ce que je dis, là, actuellement. Deuxième, c'est pas première, quoi. Deuxième, on en parle presque pas, j'ai envie de dire. Et voilà, première, je pourrais dire, j'ai gagné. Et maintenant, la Saint-Élion, quoi. Et la Saint-Élion, ça. Dans notre coin, en tant que Ligérien ou Grenoblois ou Lyonnais, bah, ça parle. Donc,
même
forcément.
C'est fou, hein, cette course. Même au niveau des non-sportifs, je trouve.
Ah bah ouais, clairement.
La Saint-Élion, il y a beaucoup de personnes qui connaissent. Hein. C'est vrai que c'est assez... Enfin, je trouve qu'il y a le championnat du monde et puis les grandes classiques, quoi. UTMB, c'est Saint-Élion, ça reste quand même quelque chose... ça touche le grand public, je trouve. Ouais. Quoi.
Justement, est-ce que dans une carrière de sportif, une Saint-Élion, ça peut changer quand même une carrière parce que vous allez être un peu plus reconnu aussi médiatiquement, voilà. Ça peut changer aussi des choses.
Ça dépend à quel stade t'en es dans ta carrière, je pense. C'est vrai que Adeline, je pense, ça va pas changer. On l'attendait.
Il va le dire, voilà. Bah, je suis vieille, vas-y, dis-le. Ouais.
Ça change des trucs personnels. C'est que j'ai confiance en ma prépa, j'ai un premier modèle de prépa pour ce genre de format, etc. Après, est-ce que ça a changé ma carrière, etc. Non, je pense pas. C'est juste, moi, ça me fait plaisir. C'est que de la satisfaction personnelle et puis des rêves de gosse. Il y a 2 ans, j'étais sur le bord du parcours pour encourager mes parents et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils y trouvent à faire ça en fait? Puis 2 ans après, je suis là et puis je gagne, c'est trop bien.
Et alors, Sylvain Cachard, qu'est-ce que tu y trouves à faire ça, toi?
Ouais, le challenge. Hein. Le challenge, c'était aussi le 80 km, un peu cette porte d'entrée dans l'ultra, on va dire. Ça me permet de faire un premier test grandeur nature de qu'est-ce que mon corps est capable de donner sur ce genre de format, sur quand même 5-6 heures d'effort. Donc je pense que c'était un peu un tout. Le fait aussi que la Saint-Élion, ça me permet de courir avec des athlètes que je connais de nom, mais que j'ai jamais pratiqué, on va dire, que j'ai jamais couru avec eux. Et on apprend toujours de nos adversaires. Enfin, je veux dire, j'ai découvert de super gars, un Benjamin, un Virgile. C'est des mecs top. Enfin, je pense que c'est des mecs qui font du bien au sport. Et moi, ça me fait grave plaisir d'avoir couru avec eux et on s'est tous beaucoup apporté, je pense, pendant cette course. Donc, c'est ça qui est cool aussi.
Tu es plutôt jeune aussi, Sylvain. C'est 26 ans, tu vois, c'est
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça.
26 ans. Est-ce que toi, c'est un peu l'inverse d'Adeline? Tu espères monter sur distance un peu plus longue ou pour l'instant, ça te convient bien?
Non, ouais, c'est le but. D'autant que, voilà, on va dire de 2016 à 2022, c'était vraiment course en montagne. 2022-2024, les formats un peu Cierzinal. Et puis, voilà, 2024-2028. On ouvre un peu un chapitre focalisé sur du 50-80, on va dire. Après, c'est ma volonté. On verra où mon corps a envie d'aller, puis où à l'instant T j'ai envie d'aller aussi. Mais je suis assez psychorigide et monomaniaque sur je sais où je veux aller et souvent j'y arrive.
Ouais, bon. C'est comme ça qu'on réussit en général. Hein.
Ouais, hein, il n'y a pas de magie. Hein.
En tout cas, un grand merci à vous deux de vous être arrêtés au micro
d'Alain. Merci beaucoup.
Surtout après cette nuit blanche, c'était pas évident. Reposez-vous bien.
Merci, au plaisir.
Bon, merci au micro d'Alain.
Bon, ciao, ciao.
Bon, on continue ce débrief de cette Saint-Élion 2025. Avec cette fois, on peut en parler comme des révélations finalement. Vous êtes assez jeune. On va accueillir justement Virgile Morizet et Diane Racineux. C'est la jeunesse qui monte sur le podium aujourd'hui de cette Saint-Élion. Il faut que je rappelle quand même votre âge, 24 ans à tous les deux. Virgile,
non, j'ai
27. 27,
j'ai 27,
pardon, 24 et 27 ans, mais ça reste jeune dans le trail de partir sous moins de 30 ans. Non, Virgile, je me tourne vers toi d'abord parce qu'on a l'impression que finalement sur cette course, tu es revenu comme une bombe et que cette deuxième place, elle aurait presque pu finir sur la gagne. Qu'est-ce que tu as cru sur cette course ?
J'y ai pas forcément cru parce que Sylvain Clinchard, c'est pas n'importe qui. Il a quand même, mine de rien, un gros pédigré, un très beau palmarès. Mais sur cette course, tout est possible. Moi, j'ai déjà vu énormément de gens marcher dans les dernières montées, être complètement arrêtés, complètement cuits. Donc il suffisait qu'il ait des crampes ou un vrai problème gastrique, une hypoglycémie, et tout était possible. Donc j'ai tout donné jusqu'au final.
Je parlais de jeunesse et de révélation. Diane, t'es quand même de la jeunesse et de la révélation parce que c'était ta première Saint-Élion en entier. Ça s'est passé comment pour toi ? Troisième, c'est super.
Oui, oui, je suis super contente. Pour moi, c'était vraiment l'inconnu parce que j'avais jamais fait aussi long. J'ai eu pas mal de problèmes plutôt musculaires. Ça a été très dur musculairement. Bon, alors je pense comme tout le monde. Mais je trouve que assez tôt dans la course, j'ai eu une sorte de fatigue musculaire qui est venue assez rapidement.
À partir de quel kilomètre, tu dirais ?
Ça a commencé à peu près après Saint-Christo, un peu après, vers 25.
Ok.
Voilà.
Et comment est-ce qu'on gère ça justement quand on a des difficultés assez tôt dans la course ? Est-ce que mentalement, on essaye de se remobiliser un maximum pour dire non, ça va passer ?
Moi, j'ai essayé de me recentrer sur moi, sur mes sensations. Je me suis dit que c'était ma première Saint-Élion, qu'il fallait que je prenne mon temps. Enfin, dans le sens... en fait, je suis tombée. Je pense que c'était lié aussi au fait que j'étais un peu bancale sur mes appuis. Donc, je suis tombée, j'ai marché 5 minutes, j'ai repris mon souffle. Et je me suis dit, c'était l'expérience. Et je suis repartie en essayant de me concentrer sur les parties de mon corps où j'avais pas mal. J'ai essayé de penser à autre chose que juste la douleur musculaire. Et je sectionnais, je pensais au prochain ravitaillement, j'ai découpé ma course vraiment, je me disais, là tu vas voir tel ravitaillement, tu vas voir ton assistance, à tel point il y a les collègues aussi qui sont là pour t'encourager, et j'ai fait ça toute ma course et ça m'a bien aidé mentalement.
Sylvaine, ça c'est quelque chose que tu t'y retrouves dans ce discours-là, quand tu te dis, mince, ça fait 20 bornes que je cours, je suis déjà pas top, il reste 60 kilos à couvrir, est-ce qu'il faut découper et comment est-ce qu'on se recentre justement sur sa performance et sans se démoraliser ?
Ouais, découper c'est hyper important sur les courses longues parce que si tu te focuses direct sur la ligne d'arrivée, elle va pas arriver tout de suite. Donc, découper c'est souvent un prépa mental d'ailleurs qu'on en parle, hein, ça fait étape par étape. Et puis après, je crois qu'avant tout, quand t'as des douleurs comme elle a eu musculaire, faut pas s'énerver. Elle a eu le bon réflexe, ralentir, pas baisser les bras en disant « Oh là là, c'est course perdue et stressée », tu vois, parce qu'après, tu rentres dans un truc négatif qui fait que tu vas t'enfoncer vers le bas, quoi. Donc, elle a eu bon réflexe, parce que finalement, c'est normal, à un moment donné, d'avoir des douleurs musculaires. Alors là, c'est peut-être arrivé tôt pour elle, parce que c'était aussi sa première longue, et puis elle apprend, hein. C'est un petit bébé en trail, hein, donc elle apprend, et comme tout le monde, donc je crois qu'il n'y a pas d'âge en fait, c'est l'âge auquel tu commences le trail, quoi, et c'est l'âge de tes muscles, et on parle d'âge 24-27, mais je pense que s'il y a des personnes qui commencent à 40 ans, ça va faire pareil, parce qu'ils seront débutants à 40 ans, tu vois. Donc c'est normal, mais elle a eu vraiment le bon réflexe. Et puis chaque course est différente, donc peut-être que la prochaine fois, les douleurs arriveront à 40 km. Découper, c'est bien en prépa mental, quoi.
Diane, du coup, troisième place, podium pour une première Saint-Élion. Tu l'as dit, tu es extrêmement contente de ce résultat. Est-ce que, ça peut être bête, mais est-ce qu'il y a quand même une fierté d'être venue à bout de 80 km comme c'est une première ?
Ah oui, je suis vraiment super contente de me dire déjà d'avoir relié Saint-Étienne et Lyon en courant. Je trouve la course cool, moi j'aime bien ce genre de course qui va d'un point A à un point B. Je le faisais beaucoup à vélo, je partais d'une ville et j'essayais d'en rejoindre une autre. Et de pouvoir le faire en courant, je trouve ça sympa.
Virgile, toi comment est-ce que tu as vécu ta course ? On en parlait tout à l'heure avec Sylvain, il a eu presque peur à un moment lui parce qu'il s'est dit... Virgile, c'est quelqu'un qui finit très bien ses courses, 3 minutes, c'est peut-être un peu juste.
Ouais, j'ai tendance à avoir un gros finish et j'apporte vraiment beaucoup d'importance à la gestion de course. Je pense que c'est vraiment quelque chose de primordial pour essayer de faire la meilleure perf possible, hein, peu importe le terrain. C'est vraiment pas s'épuiser sur la première partie de parcours. Moi, j'avais divisé le parcours en trois parties. Et cette année, j'avais vraiment envie de courir devant. C'est les trois premières éditions, j'avais clairement pas le niveau pour être devant et je faisais toujours des bonnes fins de course pour remonter. Cette année, j'avais envie de prendre mes responsabilités, d'aller jouer avec les collègues et c'est pas facile. C'était pas facile et je pense que Sylvain a très bien joué en lui étant un peu plus focus sur ses propres sensations. Je pense que certes, il a un très gros palmarès, mais il manque aussi d'expérience sur 80 km. Et en fait, c'était parfait pour lui de partir plus doucement et de nous rattraper, de nous cueillir. Et à la fin, ouais, il a tenu.
Bon, Virgile, il faut le dire, c'est un peu le maître de la régularité et de la progression ascendante, du coup, parce que 18e en 2022, 7e en 2023, 4e l'an passé et enfin 2e cette année. Est-ce que tu as l'impression de commencer à dompter vraiment ce mythe qu'est la Saint-Élion?
Oui, honnêtement, par exemple, cette année, quand ils annonçaient 40% de nouveaux parcours, j'ai regardé mes traces Strava, j'ai fait « ouais, en fait, comparé aux années précédentes, il n'y a pas grand-chose qui change ». Donc non, c'est clair. En plus, je me suis énormément entraîné dans les monts du Lyonnais. Je suis lyonnais, donc je connais très bien le terrain. Et clairement, cette course, elle ne me fait pas peur par son profil ou son parcours, mais elle me fait peur par la souffrance qu'elle inflige, dans le sens où elle laisse aucun répit. On voit énormément de personnes qui ont des problèmes gastriques, qui ont des crampes, parce que tu passes ton temps à courir. C'est un peu une petite Western State de nuit, en fait, quand on y pense. Et avec aussi ce profil descendant qui est très particulier, beaucoup de routes, c'est très exigeant pour, musculairement.
Sylvain, voilà, sur cette Saint-Élion, il y a moult et moult raisons de s'arrêter, de marcher. On en parlait, problèmes gastriques, le froid, parfois avoir trop chaud aussi, comme hier, se couvrir un peu trop. C'est quoi les principales difficultés pour dompter cette course? Le départ à 23h aussi, qui n'est pas évident.
Bah, chaque édition est différente. C'est vrai que, comme tu l'as si bien dit, en fonction de la météo, parfois tu es tétanisé, tu as fait des erreurs stratégiques, tu as voulu trop te couvrir et après tu as eu froid. Enfin, c'est vraiment pas facile. On n'est pas égaux aussi, hein, face au froid, face au chaud, chacun doit se connaître. Et c'est vrai qu'il disait « elle me fait pas peur », mais je pense que c'est l'inconnu qui fait peur. Et le fait que tu l'aies déjà faite, que tu savais dans quoi te lancer…
Oui, c'est clair que ma première Saint-Élion, j'étais moins confiant.
Ouais, non, mais c'est ça, en fait, l'inconnu, tu sais pas si tu vas y arriver. Et là, tu sais que de toute façon, tu vas le faire. Tu sais pas quelle sera l'issue et comment ça va se terminer, mais le fait de… tu en es capable. Et mentalement, le fait que tu sais que tu en es capable, tu pars beaucoup plus serein. Et c'est vrai que l'année prochaine, il faut que tu reviennes, hein, parce que tu fais toujours de mieux en mieux. Donc là, prochaine étape, ce sera la victoire. Hein.
Ouais, c'est sûr, statistiquement, ça commence à être de plus en plus dur de passer un cap au-dessus, clairement. Mais ouais, je pense que peut-être pas l'année prochaine, enfin j'en sais rien, c'est un peu tôt pour en parler. Mais c'est sûr que je reviendrai sur la Saint-Élion avec l'espoir de la gagner, parce que... voilà, moi quand j'ai commencé le trail, je pensais jamais que je pourrais atteindre ce niveau-là, surtout sur une course aussi plate, aussi roulante, qui sont vraiment pas mes qualités de base.
Tu te surprends encore sur ces courses-là, d'atteindre ce niveau justement?
Non, parce que je travaille tellement à l'entraînement pour devenir un coureur complet. Je pense que maintenant, si on veut performer en trail, même en ultra, même pour par exemple l'UTMB, il faut pouvoir courir très vite à plat, être très à l'aise dans le technique. En fait, on n'a plus le choix si on veut exister à haut niveau. Donc moi, c'était vraiment... voilà, cette Saint-Élion, même si elle ne me convenait pas, je la prenais comme un passage obligé pour me forcer à aller travailler mes points faibles. Sinon, c'est trop facile de juste passer des heures en montagne, de bosser sur ses qualités. Et en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas tenir le rythme.
Et aujourd'hui, c'est quoi pour toi que tu dois encore bosser? Est-ce qu'aujourd'hui, cette course, elle t'a apporté des réponses sur des choses que tu dois encore travailler si tu voulais la gagner?
Si je voulais la gagner, je pense qu'il va me manquer encore un peu de physique au général, augmenter un peu toutes mes stats. Je pense que je suis un coureur qui est très durable. J'ai une grosse résistance, aussi bien musculaire, métabolique et même mentale. C'est une de mes qualités. Mais il va falloir un jour augmenter la taille du moteur, clairement. Parce que quand on voit les mecs comme Thomas Cardin, Sylvain Cachard, Antoine Charvolin ou Benjamin Paulin, c'est des mecs, c'est des machines, quoi. C'est des machines, ils peuvent mettre des accélérations, en récupérer et continuer comme ça. Moi, je suis obligé de lisser l'effort. Sinon, je pète. Donc,
un moment, c'est le changement de rythme que tu as besoin de travailler?
Ouais, pas forcément. Plus augmenter toutes mes stats globalement, quoi. Parce que c'est ce que disait Sylvain, que lui, il est plutôt bon partout. Moi, je me considère plutôt moyen partout. Donc, à un moment, il va falloir essayer de passer un cap physique.
Moyen partout, on fait deuxième de la Saint-Élion, on est quand même plutôt bon moyen.
Bon moyen.
Diane, toi.
On a pas les mêmes références.
Ouais, c'est ça. Diane, toi, comment. J'ai une question aussi, parce que hier, on s'est vu sur. Pour tout dire à nos auditeurs RMC Running, on s'est vu sur le stand ici à Lyon. Comment est-ce qu'on gère cette avant-course? Parce que finalement, le départ est très tard, 23h30 à Saint-Étienne. Est-ce qu'il y a. Il y a une sieste qui se fait l'après-midi. Comment est-ce qu'on gère la fatigue finalement d'avant-course qui est très particulière?
Alors moi j'ai essayé de faire une sieste, ça n'a absolument pas fonctionné.
Ça marche pour personne en fait.
Franchement, c'était un zéro pointé. C'est-à-dire que je me suis calée dans mon lit à 14 et bah, à 16h, je faisais rien en fait.
Moi ouais, j'ai bien dormi 1h30.
Ouais. Et bah, beurre.
Virgile, très bon coureur, très bon dormeur aussi.
Ah ouais, les siestes, ça me connaît.
Non, mais c'est quand même assez particulier. Il faut quand même gérer pour pas arriver cuit déjà mentalement sur la ligne d'arrivée, quoi.
Mais je trouve qu'avec l'adrénaline, moi, j'ai absolument pas ressenti la fatigue. Hein. Je suis arrivée sur la ligne de départ. Il y a pas un moment, je me suis dit, ah ben là, je ferais bien une petite sieste. Et avec l'ambiance, j'étais plutôt en mode, allez, let's go, starting block.
Il y avait l'excitation de la première, finalement, aussi, de partir et de se faire plaisir. Enfin, ça y est, on y est, quoi.
Ouais, le départ, c'est un truc de fou. Il y a la musique à bloc, il y a du monde partout. Ouais, j'avais vraiment... je partais en teuf, en fait. Je partais pas du tout pour dormir. Enfin, j'ai eu aucun problème.
Et alors, on part trop vite avec l'excitation ou ça
va? Ouais, carrément, ouais.
Ça se paye assez tôt.
Je pensais, pourtant, j'avais l'impression d'être tranquille, hein, mais bon, je pense que j'étais pas si tranquille.
C'est voilà. Une atmosphère particulière aussi à Saint-Etienne. Il faut le dire, sur cette Saint-Élion, on a tendance quand même à partir très vite, c'est très roulant, c'est du goudron au début. Comment est-ce qu'on gère ça, de se dire je laisse partir et après ça sera à mon tour de mettre des attaques?
Je crois qu'on le gère pas en fait, et on y va sans trop réfléchir, et naturellement quand la pente elle commence à être un peu plus abrupte, on ralentit quoi, mais je pense qu'on se laisse porter, et puis en plus on a envie de se placer, on a envie de faire comme les copains, et on a finalement, on dit on fait sa course, mais tu peux pas t'empêcher de regarder quand même où sont les autres. Donc tout le monde part beaucoup trop vite, mais ça se régule quand même assez dès les premières côtes, ça se régule. Et après, ouais, t'as la fraîcheur du départ, t'as l'excitation, tu t'es préparé pour ça, c'est le jour J. Toute la journée, t'as attendu pour. Donc, mais je crois que par rapport aux siestes, etc., c'est plutôt les jours d'avant qui comptent. Donc quand t'as bien dormi les jours d'avant, faut pas stresser, faut pas s'énerver. Déjà de rester dans son lit, les yeux fermés, dans le noir, ça repose quoi.
Non, Virgile, t'es plutôt d'accord avec ça. Toi, tu disais que t'avais quand même réussi à dormir 1h30 avant le départ. Comment est-ce que toi, tu gères ton avant-course sur cette
Saint-Élion? Ouais, moi j'essaie vraiment de tout prévoir à l'avance, c'est-à-dire mon sac est fait la veille. Je laisse vraiment, entre guillemets, rien au hasard, surtout pour une course comme ça où on pourrait avoir tendance un peu à s'endormir. On dit, oh, on a le temps, c'est 23h30. Et en fait, tu te rends compte que j'ai oublié de prendre mes gels ou quoi. Donc non, je pense que c'est vraiment important d'avoir cet aspect planification à l'avance, même sur ces temps de passage ou quoi. C'est important d'être prévoyant. Et après, l'aspect mental, c'est sûr que comme c'était ma quatrième, j'ai un peu moins d'excitation au départ. J'essaie juste de rester dans ma bulle, d'être très concentré, de bien réaliser mon échauffement, parce que ça part tellement vite qu'il faut être bien échauffé pour le coup. Pour le mental, je pense que c'est question d'habitude aussi.
J'ai quand même l'impression que, je sais pas ce que tu en penses ici, mais que t'es quand même plutôt un coureur qui calcule pas mal de choses, non? Tout est au millimétré.
Tout est millimétré. Il y a pas si longtemps que ça, j'avais pas trop le choix si je voulais jouer devant, d'être vraiment parfait entre guillemets. Maintenant, j'ai plus de marge sur certaines courses. Cette nuit, j'en avais pas. Mais voilà.
Okay. Ouais, c'est un peu le profil de Sylvain. Il en parlait tout à l'heure. Il met tout en œuvre pour y arriver, et c'est la bonne méthode pour réussir. Au moins, t'as pas de regrets, et évidemment, on a rien sans rien. Donc, on voit que il fait ce qu'il faut, et c'est bien. Je pense que c'est comme ça qu'il y arrivera.
Diane, toi, tout est calculé, ou plutôt t'as un côté où il faut aussi se laisser porter et vivre l'instant présent, quoi?
Non, moi justement, j'ai tendance à me laisser porter, et je travaille l'aspect organisation, planification. Donc ça, je l'ai pas mal travaillé pour arriver, pour arriver prête. J'ai mon plan de nutrition qui soit prêt la veille, etc. Que tout, pour avoir le moins de choses à penser en fait le jour J.
Bon, allez, dis-nous tout, parce que Virgile, il a fait son sac le vendredi soir. Toi, il était fait quand ton sac?
Ok, honnêtement, à 19h. Non. Il était fait à 16h.
Ok, ça reste bon élève, non?
Ouais, et puis on est tous différents. Moi, je sais que je suis un peu à l'arrache aussi, et je pourrais pas faire la veille parce que j'ai pas envie, parce que ça va me mettre dans un état trop tôt dans ma course. Tu vois, je pense que c'est à chacun de se trouver. Lui, il a besoin de ça. Diane, ça lui va, ça lui convient différemment. Peut-être que si elle faisait, elle ferait comme lui, ça lui irait pas. Tu vois, et vice versa, quoi. Donc, je pense que c'est à chacun de trouver sa méthode. C'est comme l'alimentation, comme plein de choses. C'est propre à chacun. Donc, voilà. Après, on peut essayer de tester des choses. Mais quand on a trouvé sa méthode, je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions.
Justement, on n'a toujours pas parlé alimentation sur cette Saint-Élion. Comment est-ce qu'on s'alimente? Est-ce que ça peut être différent de d'autres courses, comme la course est de nuit? Souvent, il fait froid. Est-ce qu'il y a des différences vraiment propres à la Saint-Élion sur la nutrition? Je me tourne vers toi, Virgile, en premier.
Moi, la seule chose que j'adapte vraiment, c'est mon repas d'avant-course. Où au lieu de le prendre 3h30 avant, là, je le prends 4h30 avant. Parce que...
Mais un gros repas?
Un repas, non, pas un repas conséquent, parce que la recharge glucidique, elle se fait la veille plutôt, ou l'avant-veille même. Donc il faut essayer d'avoir, faut pas être léger sur l'estomac, parce que c'est un coup à manquer de calories, mais voilà, un repas normal, très simple, riz, ketchup, parmesan, on n'en parle plus.
Ah ouais?
Ouais, bien sûr.
Okay. Pas de protéines du coup?
Non, pas de protéines le soir. J'en prends à midi, le matin, mais pas le soir, parce que là, ton corps, il est censé être reposé, il est plus censé réparer de la fibre, donc la protéine, à part la trimballer pendant toute la course, ce ne sera pas forcément utile. Et après, pendant la course, moi j'adapte pas, comparé à une course estivale ou de jour. Par contre, je me laisse guider, c'est plus l'aspect changement de rythme et allure qui va faire que je vais modifier ma nutrition pendant la course. Benjamin et Antoine ils attaquent, je vais peut-être pas prendre le gel que j'avais prévu de prendre, je retarde et je le prendrai une heure après. Mais ce qui compte c'est vraiment de lisser ses calories pour éviter de surcharger son intestin, je pense.
Bon, le riz ketchup parmesan, j'ai un peu l'impression qu'on part en soirée moi, mais... ou qu'on en revient plutôt.
On en revient, ouais.
On en revient. Non Diane, plus sérieusement, est-ce que toi tu adaptes par rapport à d'autres courses ou c'est vraiment de la nutrition classique?
Tout comme Virgile, sauf que moi je mets pas de ketchup, moi je mets direct le fromage râpé.
Non, mais c'est vraiment ketchup.
Ouais, pourquoi ketchup?
Super étonné, ouais.
Ouais, ça rajoute un peu de goût, un peu de sucre.
C'est son côté enfant.
Ouais, c'est ça.
C'est parce qu'il a 24
ans. C'est moins acide que la sauce tomate, donc ça se digère mieux aussi.
c'est surtout une recette de Doberman.
Moi, je mets du pesto, sinon.
Virgile, 24 ans, mange des plats d'enfants de 10 ans, finalement.
Ah bah oui, de toute manière, les gens qui s'entraînent beaucoup le savent. Ce qui compte, c'est manger, peu importe ce que c'est. Hein.
Oui, il faut surtout garder cette petite notion de plaisir et d'habitude aussi, parce que peut-être c'est quelque chose que tu fais souvent.
Honnêtement, mon riz ketchup, c'est pas mon plat préféré. Hein. Honnêtement, si j'avais pas eu la course, j'aurais pas mangé ça le soir, je te cache pas. Mais c'est surtout, par exemple, moi je fais mon propre riz au lait le matin, riz au lait végétal, et avant toutes les courses, je mange la même chose. C'est un rituel, donc à la fois mentalement, on se pose pas la question de est-ce que je mange ce qu'il faut en quantité ou quoi, comme ça on est bon. Et même, c'est essayer de limiter les problèmes gastriques, justement, ça commence la veille, l'avant-veille, même la semaine avant la course en fait.
Bon, ça te rassure, quoi, quelque part, de ouais, faire toujours ça. Le même.
Exactement, c'est se dire que si t'as le bide en vrac, c'est le hasard quasiment, quoi. C'est pas que t'as pas d'excuses en fait.
Riolet végétal et maison, c'est quand même un peu plus adulte que le ketchup.
Ouais, là on est passé là un peu on plus a bobo, plus de 34 ans, plus 10 ans là.
Bon, déjà elle est un peu tôt cette question, mais j'ai trop envie de te la poser. Est-ce que t'as envie d'y revenir déjà sur du 80 bornes comme ça?
Oh, c'est un peu tôt. Non, ouais.
C'est que ça que tu racontes.
Non, mais en plus, c'est Virgile qui m'entraîne, donc il sait. Ouais, l'année prochaine, j'ai prévu de passer sur le format 100 km. Parce que normalement, j'ai la CCC. Je suis qualifiée. Donc, ouais, le but serait d'aller faire un 100K en mai. Et voilà. Et après, on verra.
C'est une vraie transition, ça, de passer des distances plus courtes au 100K. Il y a un monde d'écart quand même, non?
Ouais, ça va être une vraie. Bah, en fait, je trouvais que la Saint-Élion faisait bien cette transition. Moi, j'étais plus sur format 50-60. Saint-Élion était pile au milieu. C'est une course plutôt roulante où il y a peu d'heures d'effort, par rapport au kilométrage. Et le but, c'était un peu de faire un test avant de passer sur vraiment le format 100K.
Si, c'est important cette. Progression, cette régularité aussi vers les distances plus longues, pas y aller trop vite, prendre son temps.
Ouais, c'est primordial pour moi. Moi, j'avais fait exactement la même chose. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il a envie et ce qu'il ressent. Mais je pense que oui, parce que déjà, c'est pas une finalité de faire du long et faire de l'ultra. Donc, d'y aller progressivement, ça permet aussi de voir si ça plaît, si on a envie, si ça correspond, si... les tendons, les muscles, tout ça, ça suit parce qu'on n'a pas la même ossature, tu vois, il peut y avoir des blessures derrière. Donc, ouais, c'est très bien de passer par des transitions comme ça. Elle va voir si ça continue à lui plaire Et puis voilà, elle va adapter aussi en fonction. Et puis l'entraînement aussi, parce que tu peux pas non plus au niveau entraînement, c'est pas du tout la même préparation. Donc elle risquerait de se blesser aussi. Enfin, son entraîneur, il est mieux placé que moi pour le savoir. Mais c'est brutal un peu de passer d'une prépa 50 à une prépa 100 miles, par exemple. Donc le 100K, c'est une bonne transition. Ouais, c'est une bonne façon de faire, je pense.
Ça va, Diane, elle est bonne élève?
Ouais, ça va. Bah, ça fait depuis septembre que voilà, je regarde un peu ce qu'elle fait. Et par exemple, ouais, pour préparer Saint-Élion, disons qu'avec la connaissance que j'avais de la course, je pense que j'ai pu l'aiguiller sur des aspects qui lui manquaient un peu, style beaucoup de justement travailler ce renforcement musculaire entre guillemets avec des longues sorties longues à plat entre guillemets. Et oui, la transition sur 100K, elle l'a très bien dit. Voilà, sur l'OCC cet été, elle a passé plus de 7 heures. Donc en fait, là, la Saint-Élion, ça peut être aussi exigeant, entre guillemets, enfin aussi court, pardon, qu'un format 50 km en montagne. Donc c'est une transition qui est très intelligente de sa part.
Clairement. Moi, ce qui m'impressionne toujours avec vous, les trailers, c'est que 7 heures, ça paraît court pour vous.
Mais la Saint-Élion, pour moi, c'est un sprint. C'est, wow. C'est horrible.
Ça passe très vite, en vrai.
Ouais.
C'est, ça, pour moi, un trail comme la Saint-Élion passe plus vite qu'un marathon sur route. Même si tu mets... 3h30 contre 7h30 parce que tu as l'aspect ludique, parce qu'à un moment donné tu déconnectes vraiment, alors que sur marathon tu as les yeux sur ton chrono et le moindre moment où tu ralentis ça te perturbe, alors qu'en trail c'est presque normal quoi, parce qu'il y a des montées, des descentes, tu ralentis, tu accélères, tu penses à boire, à manger. Et
c'est pas monotone.
C'est pas monotone, ouais, et ça passe vraiment vite cette heure.
Bah, ça passe vraiment 8-7 heures, mais il va quand même aller falloir vous reposer à un moment donné. Non, je vous remercie d'avoir
là,
été au micro.
La Saint-Élion après la Saint-Élion aussi, ouais, donc voilà. Bon, forcément, on les aide pas.
Saint-Élion médiatique. Non, exactement. Merci d'avoir été à notre micro, c'était
avec
un plaisir.
Plaisir.
Et n'hésitez pas à revenir
merci
quand
beaucoup.
Vous
merci
voulez.
Beaucoup.
Et encore bravo pour votre podium et votre
merci.
Performance.
Bravo.
À bientôt.
À bientôt.
Toujours sur le débrief de cette Saint-Élion 2025, et cette fois on va parler des formats un petit peu plus courts, parce qu'on est en compagnie de Paul Cornu-Chauvin qui était aligné sur la Saint-Express, donc format 45 km hier soir. Paul, d'abord, comment ça va? Parce qu'il faut le dire à nos auditeurs, tu étais parti pour essayer de gagner cette Saint-Express. Malheureusement, l'aventure s'est terminée au kilomètre 31, c'est ça pour toi, avec un petit problème physique, non? Raconte-nous tout.
Oui, bonjour à tous. Effectivement, j'étais venu ici avec l'idée de sortir de ma zone de confort sur une course rapide, en essayant de jouer devant le plus possible. Malheureusement, j'ai été ramené à la réalité... à mi-course à peu près, avec une cheville qui a tourné plusieurs fois, et j'ai pas voulu prendre de risque. Je me suis vraiment fait décrocher, ça a été dur, et j'ai préféré arrêter pour pas compromettre l'année suivante, parce que se blesser maintenant, enfin vraiment se blesser et faire un mois sans pouvoir courir derrière, ça handicaperait énormément la saison prochaine, donc j'ai préféré mettre le clignotant. J'ai déjà fait une belle saison et c'est sûr, c'est une déception. Mais voilà, s'il y a des jours avec, des jours sans, cette année j'ai eu des jours avec et il y a des jours sans comme hier. Et voilà, faut tout prendre quand on court.
Ouais, comment ça va au moins la cheville ce matin? Parce que peut-être qu'à froid, il y a aussi la douleur qui s'est réveillée après cette course-là. Comment ça va?
Oui, ça va. C'est pas optimal, hein, bien sûr. Si je vais laisser 2-3 jours de repos, je vais avoir besoin de faire beaucoup de renforcement, de proprioception. Mais je pense pouvoir retourner à l'entraînement milieu de semaine prochaine, je dirais. Donc c'est pas une grosse entorse. En fait, je me suis fait une grosse entorse en juin que je pensais avoir soignée. J'avais plus du tout de douleur. J'avais réussi à retourner dans des terrains très caillouteux. Bah, notamment à Nice où c'est un terrain très très caillouteux sans problème, et là j'ai mis des chaussures un peu plus exigeantes et pour le coup ça n'a pas pardonné, donc ça veut dire que le travail sur la cheville n'a pas été assez loin, donc c'est pas optimal, mais enfin normal, mais je boite pas déjà pour l'instant, donc c'est voilà, je pense que j'ai arrêté au bon moment pour pas aggraver, parce qu'effectivement quand le muscle est chaud on veut continuer. Et en fait, on la retourne encore avec le ligament qui devient de plus en plus flex. Et ben, on la tourne. Voilà, moi, je l'ai tourné 3 fois en fait sur 30 bornes, donc c'est beaucoup. Et après, si c'est pour la retourner une 4e fois, il arrive un moment en fait où le tendon il dit non, mais là, tu m'en as trop mis, ouais. Je saute quoi.
C'est plus la raison qu'à parler finalement. pour le cas.
Exactement.
Là, c'est plus que la douleur, quoi.
C'est plus la raison que la douleur. J'ai eu mal, je me suis arrêté pendant une minute à me dire bon, qu'est-ce que je fais. J'ai marché sur 500 mètres et il me restait 2 km pour atteindre le ravitaillement de
Chaponneau.
C'était Chaponneau, exactement. Il me restait 2 km, je les ai trottinés, ça me tirait. Voilà, s'il fallait aller au bout, je suis honnête, hein, je pouvais aller au bout. J'étais pas venu pour faire 15e et je pense que c'est globalement ce qui se serait passé, 15, 20e. J'étais pas venu pour ça, je voulais pas prendre de risques à pousser jusqu'au bout et à vouloir rentrer sur le groupe qui m'avait sorti du coup et à la retourner et à tout casser derrière. Donc ça a été vraiment la raison plus que la grosse blessure. Donc,
si, sur toutes les courses trail et courses à pied en général, il y a des abandons, mais sur la Saint-Élion particulièrement, l'abandon fait aussi partie de cette course mythique. Effectivement, le terrain parfois peut être un peu difficile et lorsqu'il y a une cheville qui tourne, par exemple, entre autres, c'est difficile quand même d'aller au bout sur un terrain qui est assez technique, mine de rien, surtout sur la fin.
Ouais, c'est sûr, et après, c'est un peu ça passe ou ça casse, et dépendamment de ce que le coureur s'est fixé comme objectif, et Paul, c'est un bon exemple, il l'a dit, c'est j'étais pas venu pour ça. Soit tu viens, tu veux faire une grosse perf, et tu peux pas faire ta perf, tu décides d'arrêter avant, sans forcément de grosses blessures, mais parce que tu te dis que c'est pas pertinent, parce que c'était pas ton objectif. Soit oui, tu peux finir en allant plus doucement et en te disant bah, moi je veux finir coûte que coûte, mon objectif il est terminé. Voilà, mais c'est sûr que moi je trouve que c'est une course, c'est tellement ta parole à l'erreur, surtout devant, quoi. On le disait, ça va très très vite, que ouais, ça passe, ça casse et ils prennent des risques. Hein. Ils prennent des risques, ils vont vite. Moi je me dis toujours quand je les vois passer, au moindre pied dans un trou, la cheville elle part. Parce qu'en fait, il faut savoir que les sentiers sont remplis de feuilles mortes. Et en fait, tu vois pas les trous parfois en dessous. Tu prends le pari, hein, quand tu vas vite. Je sais pas où est-ce que tu t'es tordu la cheville, mais ces feuilles-là, elles sont...
Bah, c'est ça, c'était forcément dans une descente. Puis sur cette course, ce qui est très dur, c'est qu'on est sur du goudron. On est vraiment très très vite. On rentre dans le chemin, bah en fait le cerveau il est habitué à courir très très vite, donc on court quasiment à la même vitesse dans des cailloux, comme tu dis, dans les feuilles, tu vois pas très bien. Et voilà, c'est.
Des fois ça peut être compliqué, ouais.
Exactement, cette gestion de l'allure en fait sur cette course, ça va être très compliqué parce que mine de rien, les montées elles sont pas longues, mais elles sont sèches. Derrière, on a des faux plats descendants, donc on est vraiment très très rapide. On a le faux plat descendant et on a le même, mais on rentre dans un chemin. On va pas dire que c'est des chemins très techniques, mais finalement, quand on court à 17-18 à l'heure, et ben, de mettre trois cailloux au milieu, ça devient quelque chose de technique, en fait.
Et très honnêtement, Paul, est-ce que le fait aussi d'avoir été, après avoir eu la douleur et les torsions de cheville, comme tu l'as dit, est-ce qu'après avoir été décroché du groupe de tête, est-ce que mentalement aussi, ça a pu jouer de te dire « Bon, là, de toute façon, j'ai plus grand-chose à jouer. » Parce que s'il y avait eu la douleur et que tu étais encore dans les 2-3 premiers, est-ce que tu aurais fini, par exemple ?
Moi, je suis quelqu'un de très honnête, donc effectivement...
En plus, on a parlé au petit déjeuner.
Exactement.
Alors, t'as pas le droit de mentir.
Ah ben tu me dis, tu diras si je
mettre Sissi en
si
en
je
juriste.
Dis là si je mens sur le plateau. Non, effectivement mentalement ça m'a complètement sorti. On était un bon groupe, j'étais avec le 5e, on était 5 et 6 et on était à 15-20 secondes du 2-3-4. Donc vraiment, et on était en train de rentrer à ce moment-là. Donc c'était très dur physiquement, hein. Faut quand même moi je dis que je suis honnête, ça, on pourra en parler après, ça a beaucoup sauté sur la fin de course pour tout le monde. Je peux pas dire que moi j'aurais pas sauté derrière s'il n'y avait pas eu cet incident. Mais effectivement, on était deux, on était en train de revenir sur un groupe de trois pour jouer le podium. Et en fait, ben, de s'arrêter pendant une minute plus marcher, tout de suite on est à deux minutes. Ben, sauf qu'en fait, à ces vitesses-là, quand on est à deux minutes et qu'il reste 15 bornes, faut être lucide, ça rentre plus. Ça rentre plus. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'étais pas venu ici pour jouer derrière, j'étais venu pour jouer devant et voilà. Et du coup derrière, moi ça m'a un peu sorti de la course et j'ai même pas essayé de recourir vite derrière. Enfin honnêtement, ça a été, pour être 100% honnête, ça a été presque pas un soulagement parce qu'on se fait mal. Mais j'étais tellement... Ça courait très vite pour moi.
C'était une fatalité, ça faisait 2-3 bornes, tu disais, où c'était acté, quoi, tu le savais.
Ouais, voilà. Donc quand je suis arrivé au ravito, j'ai pas eu trop besoin de me poser la question. Il y avait Max Ardito qui me faisait l'assistance. j'ai même pas besoin de lui parler. Je l'ai regardé, je lui ai fait les croix avec les mains. Je lui ai dit on arrête là, c'est plus. Et je sais que quand les amateurs ils critiquent un peu, c'est des fois que les élites arrêtent un peu tôt dans les courses. Mais il faut se rendre compte aussi qu'on met nos records à rude épreuve toute l'année.
Tu peux pas te permettre de te mettre en danger.
Et en fait, il y a un moment, il faut préserver son corps. Notre corps, on en a qu'un pour toute notre vie. Et bah voilà, moi, ça fait 6 mois que je traîne une entorse pas terrible. J'ai envie de la soigner sérieusement maintenant. Et en fait, bah, c'est pour la refaire partir. Et voilà, je pense qu'il faut bien se rendre compte que quand on s'aligne, on n'arrête pas juste parce que c'est dur. On arrête parce qu'en fait, il y a des choses derrière.
Il y a d'autres enjeux pour toi.
Nous, ça fait pas. Enfin, pour tout le monde, tous ceux qui courent, ça fait partie de leur vie, hein, bien sûr. Mais voilà, moi, je parlais de ma saison l'année prochaine. Bah, si là, je continue et que dans le chemin d'après, je me fais la cheville et que je peux pas m'entraîner du mois de décembre, bah, tous mes objectifs de 2026, je les revois à la baisse. Et en fait, faut bien prendre ça en compte que les athlètes de haut niveau, il y a un moment où il faut qu'on fasse attention à notre corps. C'est notre outil de travail, quoi, vraiment.
Si, je me tourne vers toi aussi. Lorsque, comme Paul, on peut être dans une période de course où voilà, on broie un peu du noir, il n'y a pas grand-chose qui va dans notre sens. Est-ce qu'il y a une solution miracle pour essayer de s'en sortir? Comment est-ce qu'on peut gérer cette période un petit peu difficile? Je pense notamment aux amateurs, je pense que ça arrive un peu à tout le monde, ce genre de situation.
Ouais, déjà, il faut dire que sur la longue distance, ça arrive quasiment au moins une fois, tu vois, où à un moment donné, tu es un peu dans le doute ou tu es dans le dur. Alors, c'est pas forcément suite à une blessure, une entorse ou quoi, mais un mal de ventre, un coup de fatigue, une grosse douleur musculaire que tu n'arrives pas à gérer. Donc, faut, mentalement, si tu sais que ça va arriver, quand ça arrive, tu te dis, bon, bah, ça y est, c'est là et presque c'est normal, quoi. C'est normal, je serre les dents. Et après, il faut analyser, à mon sens, il faut analyser. Et Paul, il l'a bien dit aussi. Lui, il a analysé et il a vu qu'une fois, deux fois, trois fois, il s'est dit derrière, je vais en supporter des conséquences sur la fin d'année. Si tu analyses et tu dis ok, c'est pas grave, ça va passer. Et comment ça va passer? Est-ce que je ralentis? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je mange? Est-ce que je bois? Est-ce que tu vois? Et je pense que quand tu te connais bien, tu arrives à analyser et tu arrives à agir en conséquence. Mais je crois que la première des choses, c'est savoir que ça peut arriver, quoi. Et qu'une course pleine où tu es en flot de fou, tu voles pendant 10 heures, c'est assez rare, quoi. C'est une fois dans une vie, donc...
Ouais, j'allais dire, je ne sais même pas si ça arrive. Hein. Y a toujours un moment où tu as des downs. C'est comment dans l'ultra, parce que c'est ce que nous, on connaît le mieux, quelqu'un qui arrive à bien gérer sa course, c'est comment est-ce qu'il gère ses downs. Et quand il se sent bien, faire attention à ne pas s'enflammer. Et en fait, quand on n'est pas bien, c'est ça. Quand on est sur de l'ultra, en fait, on sait qu'on va, ça va arriver. C'est
justement,
tout le monde,
ça Paul,
arrive.
Toi, tu avais quand même assez bien survolé la course à Nice il y a quelques mois sur le 160, le 100 miles. Tu avais remporté cette course haut la main avec pas mal d'avance. Une très belle course pour toi sur ton premier 100 miles. Est-ce que revenir un petit peu autour de la 5e place, 6e place, est-ce que c'était mentalement difficile aussi pour toi de ne plus jouer forcément la gagne aujourd'hui, enfin hier du coup?
Il y avait eu pas mal d'engouement sur la rivalité, le duel Thomas et moi.
Thomas Cardin qui gagne du coup hier.
Voilà, Thomas Cardin qui gagne. Moi j'étais lucide. Hein. Il y a un moment, Thomas il gagne 3 fois la Saint-Élion. Sur ces formats-là, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'athlètes au monde qui le battent. Moi, c'est pas du tout mon niveau. Donc, je le savais avant le départ. On en avait parlé ensemble de ce duel. Moi, je savais aussi à quoi m'attendre.
Il y avait ce côté un peu excitant de se confronter à ça aussi.
Mais complètement. J'étais venu sur cette course aussi pour ça. Donc, quand en milieu de semaine, il a annoncé sa participation, j'étais très content. Mais je savais aussi en fait que des athlètes qui ont une moins bonne cote que moi, en fait, bah, s'ils ont une cote moins bonne, mais qu'en fait, ils font que des 40 km roulants, bah, en fait, ils, sur ce profil-là, ils sont meilleurs que toi. Et faut vraiment être très, très humble avec ça. On fait tous du trail, mais celui qui court un 160 en montagne et celui qui court une Sainte-Express, c'est pas le même coureur. C'est vraiment pas le même coureur. Donc, je l'ai eu un peu, pour être entièrement franc, moi, le départ a été très très dur. C'est parti vraiment très vite. Et très vite, je me suis dit, le podium aujourd'hui, c'est compliqué. Je me suis dit très vite.
Dès les premiers kilomètres ?
Ouais, dès les premiers kilomètres, je me suis dit, on verra. Parce que c'est vraiment parti fort. Et en fait, après, j'y ai un peu plus cru au niveau du 20e. Parce que bah, on était à deux, on rentrait sur le groupe. Et il y avait le deuxième, finalement, qui était qu'à 10 secondes. Ou 15 secondes, je sais plus. Mais voilà, on était finalement passé loin. Je me suis dit, ah, en fait, peut-être qu'avec, bah, en étant toi plus endurant, ça va rentrer sur la fin de course. Mais tout le début de course, c'est vrai qu'il y a eu des moments, en fait, où j'étais. Donc moi, j'étais à fond, de chez fond. Et je suis là, mais tu perds du terrain. Et ça avance plus. Enfin, ça t'avance. Je regardais la montre, j'étais à des vitesses que je cours, auxquelles je cours pas. On était sur du 3,20 au kilomètre et puis il me prenait de l'avance. J'étais là, mais en fait, c'est pas le même sport, quoi. Et oui, du coup, pour revenir à ta question initiale, le début de course où je m'en rends compte, parce qu'au début, ben voilà, je me dis, ben tu vas jouer avec eux. Au début de course, je me dis, en fait, tu vas pas du tout jouer avec eux. Il y a un petit moment où je me suis dit, ah, ça te remet à ta place aussi, et comment est-ce qu'on va gérer ça. Donc, des petits downs en début de mental, en début de course, ça me dira en fait. Puis après, je me suis dit, tu cours comme ça, et mine de rien, ça rentre pas non plus de derrière, donc t'es pas non plus complètement arrêté. Et j'étais venu ici pour me faire secouer les puces. Je suis pas allé au bout, mais sur les 30 km que j'ai fait, je me suis bien fait secouer les puces, et c'était pour ça que j'étais venu. Donc, de ce côté-là, le contrat est rempli, même si la place n'était pas forcément celle que je cherchais, quoi.
Donc l'objectif n'est pas complètement raté non plus. Ça reste de l'apprentissage dans tous les cas, de toute façon, sur le,
ah, mais sur bien
le trail.
Sûr.
Dès qu'on s'aligne, c'est de l'apprentissage.
Exactement. On apprend. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Et
là, c'en est un.
Et là, c'en est un.
Bon, merci en tout cas, Paul Cornuchovin, d'être venu nous voir. Malgré voilà, la course un petit peu plus compliquée que ce que tu espérais, c'est toujours sympa de venir après ces moments-là. C'est jamais facile pour les athlètes. Merci beaucoup.
Bah oui, et puis c'est important. On aime bien partager quand on gagne et quand ça va bien. Et je pense que c'est important aussi de voir l'envers du décor. Parce qu'une carrière, c'est pas que des victoires. Et c'est bien de pouvoir discuter avec vous de tout ça aussi.
Merci beaucoup, Paul.
Merci, Paul. Merci à vous. Hyper bien.
Eh bien, on continue encore ce débrief de cette Saint-Élion 2025, mais cette fois, on va parler handisport avec Nicolas Calvez, ici présent, qui a participé, bonjour, lui, à la Saint-Esprint, donc format 24 km. Et ta particularité, Nicolas, c'est que cette année, tu étais du coup aligné en handisport, tu as été amputé en 2024 et tu as eu une prothèse que nos amis de YouTube peuvent apercevoir juste ici en mars 2025. C'est pour toi quelque chose d'extraordinaire de pouvoir recourir à nouveau. Tu étais coureur avant cet épisode de ta vie. C'est quand même extraordinaire de pouvoir refouler les sentiers, non ?
Oui, exactement. Bah, en fait, voilà, moi j'ai été ultra trailer pendant 8 ans et avant aussi 15 ans en athlétisme, en sprinter. Donc bon, voilà, j'ai fait sprint et après ultra trail, c'est un peu spécial. Et puis début 2022, ouais, j'ai eu une nécrose du tibia. En fait, j'ai eu un trou qui est toujours inexpliqué. Et j'ai subi énormément d'opérations, 9 avant amputation, des greffes osseuses, on m'a coupé la crête iliaque pour greffer à la place du tibia, enfin beaucoup de... Et plus ils opéraient, plus j'étais avec des douleurs de fracture, donc pendant 2 ans et demi, et finir en fauteuil roulant, sous oxycodone, avec à des moments, en n'ayant plus la capacité d'interagir même avec mes enfants. Et ça a été un combat d'un an pour être amputé, en fait, parce que...
Tu ne voulais pas de cette vie en fauteuil roulant, clairement.
Non, je ne voulais pas. En fait, j'étais convaincu que de perdre une partie de moi, en fait, me permettrait de retrouver plus de liberté. Et Boris, en fait, de l'association Level Up, m'a accompagné justement aussi en m'apportant un discours positif sur l'amputation. Et puis... Par contre, la course à pied et surtout le trail, pour moi, c'était plus possible. L'objectif, c'était d'être debout, de vivre une vie de famille, reprendre un avenir professionnel. Et comme je disais, c'était même juste se balader, par exemple, avec ma fille dans les bois, parce qu'elle avait 5 ans et j'avais jamais fait une balade avec elle. Donc, c'était simplement ça comme rêve et pas du tout de reprendre la course à pied et le trail.
Et finalement,
bah, 10 semaines après l'amputation, j'ai mis une lame au pied. Chose que le chirurgien n'est pas au courant.
Oui, c'est ça, sans trop l'accord du chirurgien.
Mais Mais j'ai remis une lame au pied, puis la petite étincelle, elle est revenue, en fait, parce que j'ai toujours couru. Mon père était athlète aux 400 mètres haies. J'ai couru la première fois sur un stade d'athlétisme, j'avais encore les couches. Voilà, ça fait partie de ma vie, en fait. C'est une partie de moi de courir. Et par contre, le trail, pas pensable. On est quelques-uns dans le monde à être capables d'évoluer sur des sentiers amputés fémoraux. Donc la différence avec un amputé tibial, c'est que nous, on n'a pas de genoux. Et c'est ce qui crée une énorme difficulté, en fait, parce qu'on est obligé, on a une genre de charnière de porte, donc j'expliquerai un peu après, à la place du genou, et ce qui fait que toutes les montées, les descentes, ça demande une compétence qui est très difficile à avoir.
Et qu'en plus de ça, il faut avoir la prothèse adaptée aussi pour évoluer sur des cailloux, des racines, de la boue.
Oui, et puis avoir des financements aussi, parce que au moment où j'ai voulu courir, en fait, j'ai dû aller chercher 20 000 euros. Pour courir, donc voilà, quelqu'un de valide, il va aller courir, il passe dans un magasin, il prend une paire de chaussures à 100 euros et il va courir. Et nous, on a besoin d'amputés fémoraux de 20 000 euros.
20 000 euros pour la prothèse.
Pour l'achat de la prothèse de sport, okay. Ouais.
Après, tu l'as gardée vite, ta prothèse. C'est pas comme une paire de chaussures où tu dois la changer régulièrement quand même.
Alors si, en fait, là où on va le plus changer, ça va être la coque, donc là où on met notre moignon. Moi j'ai été amputé il y a 16 mois par exemple, et pour ma jambe de tous les jours on a déjà fait 8 coques différentes.
Wow.
Et donc,
le coût d'une coque c'est combien à peu près?
Une coque c'est à peu près 5-6 000 euros. Donc pour le sport c'est aussi adapter cette coque là et d'avoir l'argent pour. Donc moi maintenant j'ai un sponsor qui me permet d'être serein par rapport à ça, parce qu'ils me soutiennent à l'année dans l'équipement en fait de ma prothèse de sport. Donc si je dois changer de coque, il m'aide à me dire « Ok, je pourrais continuer à courir. » Mais sinon, non, ça devient vite compliqué. Après, une lame, elle s'use, c'est du carbone. En trail, je dirais que c'est moins important parce qu'on va avoir, on va moins demander la perfection en fait, du renvoi du carbone. Vu qu'on est sur un terrain instable, on a les changements de terrain, de variations de montée, descente. Par contre, un athlète, par exemple, paralympique, va avoir tendance à changer sa lame tous les 2-3 ans. Parce que sur un triathlon, sur du sprint, parce que le carbone s'use et il se renvoie.
Ah oui, on aurait eu tendance à dire l'inverse, ouais. Que sur le trail, ça pouvait être plus fragile finalement que pour de la piste. Non, finalement.
Non, c'est pas plus fragile. Sûr, hein. Ouais, alors moi je cours avec une lame qui est avec du carbone d'Airbus en fait. C'est une lame hopper, donc qui permet. Déjà, c'est une lame qui coûte moins cher que les autres. Le but c'était de la rendre plus accessible. Et c'est la seule qui a en fait une semelle. Équipé pour le trail, mais c'est une semelle qui a été conçue pour les tibiaux vu qu'il n'y avait pas de fémoraux qui faisaient. Et le premier trail que j'ai fait, en fait, au bout de 10 km, je l'ai coupé en deux, donc je me suis retrouvé même le carbone. Wow. Sur les cailloux. Donc là, l'objectif c'est de développer des prototypes pour qu'on puisse en fait augmenter les distances. Donc là, le proto que j'ai couru hier, on est content parce qu'il a tenu les 24 km. Et l'année prochaine, j'ai déjà un 55 kills sur Saint-Jacques by UTMB et j'aimerais bien finir sur les Templiers. Okay. Et du coup, là, on a 10-11 mois pour se dire, OK, l'année prochaine, il faut qu'on ait une semelle qui tienne 80 km.
Ouais, tu mets au défi un petit peu tous les chercheurs. Là. Tu leur mets une date. Écoutez, les gars, cette date-là, je cours 55 bornes, vous vous débrouillez, mais je les courrai.
Ouais, c'est ça qui est cool. Ouais, mais c'est bien. Mais au moins, ça fait aussi avancer la technologie parce que on n'est pas. C'est un marché de niche. Et en plus des fémoraux, vu qu'on est très, très peu, il y a très peu d'investissement qui est fait dedans, donc ce sera pas des semelles qui seront vendues sur le marché, mais ça nous permet, nous en tant qu'athlètes, de pouvoir évoluer dans notre sport.
Bon, raconte-nous un petit peu ta course d'hier. Je le disais, Saint-Esprit, 24 km, 3h19 pour toi pour boucler cette distance. Assez extraordinaire comme moment à vivre, de courir sur cette mythique Saint-Élion. Ouais. C'était un beau moment pour toi.
Ouais, c'était un beau moment, une belle surprise aussi, parce que moi j'étais plutôt un coureur montagnard. J'aimais plutôt les formats type échappée belle, verbier, enfin des trucs bien avec des bons cailloux et puis des gros dénivelés.
Il y a moins de bosses.
Pourtant, pas simple avec ta prothèse. Et là, d'extérieur, ouais. Comme ça, on a plutôt l'impression que c'est plus simple de courir sur du terrain propre que du terrain accidenté, quoi.
Oui, c'est vrai que c'était plus facile hier pour moi de maîtriser la prothèse. J'ai pas eu de difficultés au niveau technique.
T'as bien les challenges, en fait.
Ouais, par contre, j'ai jamais autant couru. Et musculairement, ça demandait encore un autre effort. Donc là, c'était aussi une première hier. Et surtout, c'est aussi un projet qui a été établi pendant 8 mois avec Iron, parce qu'Iron, en fait, m'a financé la lame, donc la spatule, vraiment la lame carbone, il y a 8 mois. Et il y a 8 mois, quand je suis descendu chez Iron au siège, c'était la première fois que je courais 30 minutes sans m'arrêter.
J'ai vu la vidéo.
Voilà, et quand j'ai commencé à courir avec la lame, je faisais 400 mètres autour du stade en 12 minutes. Donc c'était
et donc on l'évolution s'est dit, est incroyable.
Ouais, et puis au début on s'est dit ben on va mettre le 13 km la synthétique dans 8 mois et pour moi c'était un objectif qui était déjà énorme. C'est comme on disait ben voilà début d'année écoute courir à Diagonale des Fous. Ouais bon ben on va s'entraîner quand même pour y arriver quoi. Et puis finalement moi j'étais en nation ultra trailer donc j'ai abordé mon évolution en fait de handicap comme un ultra trail et il y a des hauts, il y a des bas mais on avance, on continue, on s'entraîne, on progresse et au final on s'est rendu compte que 13 km ça allait être entre guillemets trop facile et qu'il fallait quand même un défi pour qu'on se dise on va mettre quand même une barrière haute.
Toujours se mettre en difficulté, il faut.
Ouais.
C'est comme ça qu'on avance aussi.
Non ouais. C'est un challenger quand même.
Ouais,
hein.
Ça se voit un petit peu. Ouais.
Et puis l'idée, c'était de le courir en binôme. Donc on a couru en binôme. Et,
ah oui, alors donc, raconte-nous ça, parce que tu as couru du coup avec quelqu'un hier. Voilà, comment ça s'est passé?
Donc moi, j'ai couru avec Thomas, en fait, qui est un client Iron. Et l'idée, c'est que cette lame, en fait, elle a été financée par Iron en vendant des pochettes cadeaux l'année dernière. Les fonds, en fait, qui ont été... réussi par ces pochettes cadeaux, en fait, elles ont permis de financer cette lame. Donc moi, sur ma lame, en fait, j'ai plus de 1000 prénoms des gens qui ont acheté une pochette cadeau chez Iron. Et l'idée, c'était que, en fait, ce projet-là, il reste collectif. Et derrière, on prenne quelqu'un un client Iron, quelqu'un qui participe au projet pour dire, on va courir avec Nicolas et de faire un bon moment de partage, un moment de bonheur. Et surtout de créer quelque chose de très inclusif. Et il y a une phrase hier qui m'a sorti et qui m'a plu, c'est quand on s'est retrouvé dans les 100 escaliers à la fin, parce que c'était là où c'était le plus compliqué pour moi, c'est de descendre des escaliers, parce qu'il faut dire, il y a la lame. Donc moi, je dois poser le bout de la lame, mais l'arrière de la lame touche l'escalier d'avant, donc c'est très compliqué. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, mais j'en avais oublié que tu avais une lame. Ah. Parce que on courait, et puis au final, Il en avait oublié que j'avais la lame.
C'était juste deux mecs qui couraient ensemble, quoi.
Ouais, c'est ça, deux athlètes en fait. C'est ça ce projet qu'on a voulu apporter avec Iron pendant 8 mois. Et je pense que ça a été une belle réussite parce qu'on a pu montrer que, on avait, entre guillemets, on a tous un peu un handicap. Lui, il a eu des soucis de santé pendant la course. Et donc, du coup, de temps
en
temps.
Pas très grave, il faut le dire.
Non, rien de grave. Des soucis arrivé. Au niveau du ventre. Et du coup, il a dû. Il a dû s'arrêter, il avait des crampes estomac donc au final on avait chacun nos problématiques et ensemble on a avancé pour faire cette course.
Justement j'allais demander qui a le plus tiré l'autre. Est-ce que c'était genre moitié-moitié, en toute honnêteté, il n'y a pas de compétition, mais forcément à deux, t'en as toujours un qui tire l'autre et c'est à la fois c'est beau et à la fois c'est difficile parce que parfois tu tires vers le bas. Tu tires vers le haut, mais parfois tu tires vers le bas. Comment t'as senti les choses, toi?
C'est ce qui a été incroyable, c'est qu'on s'est rencontrés à 16h hier. Donc on ne se connaissait pas du tout, on n'avait jamais échangé un message ensemble. Et on avait l'impression d'avoir couru ensemble pendant des années. Moi, j'ai fait des courses en duo avec mon frère, j'avais l'impression d'être dans la même synergie. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas besoin de se coordonner pour « je vais à gauche, tu vas à droite ». De temps en temps, je l'attendais. Des fois, dans les descentes, lui, il pouvait aller plus vite. C'était quand même un bon coureur. C'est quand même quelqu'un qui a fait le trail du Bourbon. Il sait courir. C'est un très bon coureur.
Donc, dis-nous, Nicolas, que tu l'as attendu. Dis-nous.
Non, mais il y a des passages où il était beaucoup plus à l'aise que moi. Et puis après, il y a des passages où lui, c'était plus difficile. Et c'est ce qui a fait que c'était ce charme qui était assez sympa. Et surtout, on a bien rigolé. C'était cool.
Il y a un côté stressant quand même d'avoir jamais couru ensemble.
Ouais.
Je pensais que vous aviez au moins fait un ou deux runs ensemble, tu vois, pour vous coordonner.
Apprivoiser le moment.
Ouais, c'est ça. Je me rends pas compte, tu vois, de la synergie que vous devez avoir entre vous, coordination pour bien avancer. Mais c'était pas une appréhension pour toi de jamais avoir couru avec lui?
Non, pas du tout. Non. J'ai trouvé que justement, c'était ce qui était sympa. C'est que ça nous a permis aussi de beaucoup discuter. On a discuté aussi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu as des enfants, pas d'enfants. Enfin, on a...
Un blabla run, quoi.
Ouais. Non, mais le but, c'était vraiment pas faire une performance. Donc, le chrono, c'était... Voilà, on en a pas... Enfin, c'était pas le but de faire un chrono, de dire on fait en dessous de 3 heures, on fait 2h50. Le but, c'était de créer quelque chose. Moi, j'ai discuté avec plein de gens. J'ai même beaucoup de gens parce que c'est vrai que moi, j'ai une lame, donc j'ai beaucoup d'encouragement. sur le bord du chemin, sur les coureurs. Et j'ai rencontré aussi des coureurs qui ont des handicaps invisibles et qui finalement, eux, n'ont pas cette reconnaissance que j'ai eue. Donc on a eu beaucoup de discussions parce qu'ils m'abordent finalement plus facilement vu que je suis en situation de handicap. Bah, ils m'abordent en disant bah, « moi aussi, j'ai la sclérose en plaques, j'ai une dame aussi qui était greffée des reins, qui faisait aussi… »
Ça enlève les tabous en fait, peut-être parfois il y a des choses qui peuvent être tabous pour certaines personnes.
Ouais. Ou pas facile
à… Qui n'osent pas aussi, tu vois, à parler de ton handicap parce qu'on se dit peut-être que c'est gênant d'en parler, alors qu'en fait… C'est ridicule.
On peut en parler.
C'est important d'ailleurs.
Ça ouvre plus de portes peut-être la course à pied. Pour en parler.
Ouais, ça ouvre plus de portes et puis on est dans le même objectif, on est dans la même galère, on est dans le même truc, dans le même défi et ça permet de casser certaines barrières liées à ce handicap et que certaines personnes dans le quotidien soit ont du mal à vivre ou soit le cachent. On est très peu de gens en tant qu'amputés à montrer notre prothèse encore. Et moi, j'interviens beaucoup dans les écoles, par exemple, pour sensibiliser les jeunes, justement, à l'handicap, répondre aux questions par rapport aux prothèses, pour que ça vienne, comme par exemple quelqu'un qu'on croise dans la rue en fauteuil roulant. C'est devenu, au niveau sociétal, c'est devenu normal de voir quelqu'un en fauteuil roulant. De voir quelqu'un, par exemple, avec une prothèse, c'est encore quelque chose qui est, surtout pour les enfants, parce qu'ils le montrent, mais c'est quelque chose qui est encore peu commun. Et l'handicap invisible, des fois, les gens aussi ont du mal à se mettre en avant en disant voilà, moi j'ai un handicap, mais je vis très bien et je peux être heureux. Et je fais des choses comme tout le monde, mais en adaptant en fait ma pratique, que ce soit en termes de vitesse, que ce soit en termes d'assistance, ou voilà, mais on peut faire comme tout le monde.
En tout cas, Nicolas, il a le grand sourire. On a l'impression que tu as quand même bien apprécié le moment hier soir. Malgré la fatigue, il faut le dire, on est de lendemain matin, donc pas évident. Non, tu as bien apprécié le moment, ça t'a fait.
J'ai adoré, j'avais vraiment envie de revenir. Et vraiment, j'ai envie de mettre un bon défi, Saint-Express ou Saint-Élion, mais un truc, je sais pas, peut-être pas enchaîner les Templiers et Saint-Élion, mais parce qu'après, c'est vrai qu'on a aussi toute une gestion à avoir. Parce que la jambe droite, la jambe valide, elle prend énormément. Mais l'idée, c'est de revenir parce que j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'organisation. C'est un moment très particulier de courir de nuit, de partir de nuit. Moi j'ai vraiment aimé le truc. Ouais,
pour vous résumer, Nicolas Calvez, finalement c'est objectif sur objectif et sourire aux lèvres tout le temps. Donc ça c'est assez cool à voir. Merci Nicolas d'être venu à notre micro.
Merci beaucoup d'avoir évoqué
ton histoire. Et puis merci à tous finalement d'avoir pris le temps de débriefer cette Saint-Élion 2025. Merci à toi Sissi, malgré ta nuit agitée sur les sentiers, t'étais au rendez-vous, encore une belle édition cette année.
C'était, avec plaisir, moi je suis toujours contente d'être là. C'est un événement à part, il y a un supplément d'âme ici, il y a quelque chose de différent. Et je ne me verrais pas ne pas venir. Donc participer de cette façon, c'est participer. C'est vrai que je préfère être au cœur du peloton, mais voilà, j'ai participé à ma manière. C'est la Saint-Élion, quoi. Il faut la vivre.
Maître Sissi dans la place. Et puis enfin, quelques secondes quand même pour vous remercier, vous, la communauté RMC Running, qui est de plus en plus nombreuse à nous suivre sur les différentes plateformes. Alors un grand merci pour votre fidélité. Et puis la semaine prochaine, rendez-vous avec toute l'équipe autour de Benoît Boutron du côté du Marathon de Valence en Espagne. Ce sera encore un bon moment. Bref, RMC Running est partout. Alors entre tous ces contenus de qualité, n'oubliez pas, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous.
RMC Running.